écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. consigné sa déclaration. Le policier qui a vu l'appartement vide se demande si le journaliste n'était pas en train de travailler pour quelque chose d'important. Il va au journal et le rédacteur en chef, qui est un homme gros, petit, chauve, l'air jovial, lui dit « Malheureusement, c'est un journaliste indépendant. Mais j'ai appris qu'il travaillait sur une famille très fortunée qui était en danger. » Le policier demande « Quelle famille ?» L'autre hausse ses épaules. Alors la police décide de poursuivre leur enquête chez les gens fortunés avec la photographie du journaliste. Mais rien. Le pauvre Cyril est toujours enfermé dans sa pièce. Il est alimenté par un homme. David ne peut s'empêcher d'aller le voir pour chercher à l'amadouer. Mais rien n'y fait. Cyril ne fait que lui dire « Laissez-moi partir !» David lui dit « Non, je ne peux pas. Et je sais très, et tu sais très bien pourquoi. » Et il le laisse. Puis au fil des jours, Cyril, qui prend de l'assurance et peut mieux réfléchir, veut à tout prix savoir qui est la personne qui est ennuyée par David pour le nuire. Parce qu'il a compris que si David a assassiné Rémi et lui a pris tous ses papiers et l'ordinateur, que cela veut dire qu'il doit être, que ce doit être la personne qui s'occupe des vieilles femmes. Alors il décide de le séduire. Tout d'abord, il lui dit qu'il a perdu la mémoire, qu'il a vécu au séminaire, qu'il a eu beaucoup d'aventures, etc., etc. Qu'il a été obligé, c'est de s'habiller en femme pour ne pas être repéré par la police parce qu'il s'était enfui d'un asile. Raoul a été séduit par lui et que lui n'a pas osé lui dire qu'il était de peur que Raoul soit en colère contre lui et le jette à la rue. Pour ce qui est de Rémi, je vous jure que je ne savais rien de ce qu'il faisait. David, séduit par lui, veut absolument le croire. Cyril lui dit « Je ne veux plus rester ici, j'ai peur, je veux retrouver ma liberté. » David se demande pourquoi il est pris par ce jeune homme. Peut-être parce qu'il n'a pas connu d'amis d'enfance. Mais là, son désir est plus trouble, il a honte, mais ne peut rien y faire. Un jour, en allant chez Jeanne, il voit la photographie d'Adrien sur son piano à queue. Il lui demande « Qui est-ce ?» Elle lui dit « C'est mon petit-fils, Adrien. Malheureusement, il a disparu. Il a fait une fugue, et n'en a plus de nouvelles. Cela m'attriste, c'est la seule personne que j'aime vraiment. Il est furieux. Et moi ?» Elle lui dit « Pour vous, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas être jaloux d'un enfant. » Non ? Il sourit et lui dit « Non, bien sûr !» Il se dit qu'il peut se servir de la ressemblance de Cyril avec Adrien. Oui, il peut le faire passer pour lui. Comme ça, il pourra manipuler la vieille au fond et sans être là. Mais comment convaincre Cyril ? Je vais lui dire que je le libère et qu'il vivra dans le luxe. Mais en échange, il devra faire ce que je devrais lui dire. Voilà ce que je vais lui proposer. David décide de faire son plan un peu fou en se disant, on ne sait jamais, ça peut marcher. Il va voir Cyril pour lui expliquer ce qu'il veut qu'il fasse. Prendre la place d'une personne qui lui ressemble beaucoup et exécuter les ordres qu'il lui donnera. Cyril lui dit « Je refuse !» David lui dit « Si tu refuses, je vais te faire éliminer comme personne qui a de la peste. J'ai des relations, je peux tout simplement téléphoner pour qu'on vienne te chercher. Je te donne un jour pour réfléchir. » Et il le quitte. Cyril réfléchit et se dit qu'il ne peut refuser et que peut-être cela va lui ouvrir la porte de la liberté et pourra se venger de David. Il lui dit, « Oui. » Alors David explique qui est Adrien Forbigny et sa famille. L'oncle, sa tante, qui sont très dangereux. Pour ce qui est de l'histoire d'Adrien, il s'est renseigné grâce à la bonne, mais il ne sait pas trop de choses. Il lui dit, « Tu n'as qu'à faire celui qui retourne chez ta grand-mère, tout simplement. Tu diras que tu as fait une fugue et que tu ne sais pas retourner chez elle de peur de te faire disputer. Une fois rentré chez elle, tu recevras des ordres de moi. C'est simple, les vieux sont faciles à manier. » Cyril lui demande, « J'aurai quoi en échange ?» David lui dit, « Tu vivras dans le luxe et après tu disparaîtras avec une bonne somme. » Cyril lui demande, « Après quoi? Qu'est-ce que j'aurai à faire ?» David lui dit, « Te fais pas de soucis, je dirai tout ça en temps voulu. Mais ce sera très simple ce que tu auras à faire. » Cyril se dit qu'il veut manipuler la vieille avec sa complicité, mais lui pourra le manipuler une fois dans la place. Tous les jours, David va voir Cyril et lui fait apprendre sa leçon. Il accepte tout ce que demande David. David lui dit aussi, « On va te poser des questions sur ta fugue et le pourquoi. Tu dois répondre que tu es parti parce que tu avais besoin de liberté et que tu as traîné dans les rues au hasard. Fais la manche et rencontrer quelques jeunes qui t'ont aidé un peu. Tu as squatté, etc. Et on te demande, si on te demande où était ce squat, tu diras que tu t'en souviens plus. Voilà. De toute façon, la vieille sera trop heureuse pour te poser des questions. » Cyril, avec des habits sales, déchirés, chaussures morte, visage maigre et triste, les yeux luisants, un peu fiévreux et tremblant le port, et ses yeux luisants parce qu'on lui a donné un petit calmant. Cyril ne se souvient pas qu'il est Adrien. Il croit qu'il va prendre la place d'Adrien parce qu'il a perdu la mémoire. Il sonne au portail. À l'interphone, une voix demande. « Oui, qui est-ce ?» Cyril lui dit. « Bonjour, je suis Adrien, » le domestique fait. « Monsieur, entrez !» Cyril a entendu le déclic du portail. Il entre, tremblant dans la propriété. Il a entendu derrière lui le portail qui s'est refermé. Il a très peur et se dit qu'il vient peut-être d'entrer dans sa nouvelle prison. Il sonne à la porte de la maison. Il lui est ouvert. Un domestique, une domestique, elle lui dit, « Oh monsieur, vous voilà enfin, madame va être heureuse, entrez vite. » Cyril, tremblant, entre. Elle lui dit, « Je vais vous mener à madame qui est au salon. » Elle le mène au petit salon qui est au premier étage.
frappe à la porte et le fait entrer.
Cyril se trouve au salon, il ne le reconnaît pas et voit une vieille dame qu'il ne connaît pas non plus et a très peur. Jambes tremblantes, surprise et heureuse, accourt à lui. Ah, te voilà enfin! Elle le prend dans ses bras et l'embrasse. Lui dit, je te fais du souci si tu savais. Elle le regarde bien et lui dit, dans un trou d'état, mais c'est pas grave. Alors, que t'est-il arrivé et pourquoi n'es-tu pas rentré plus tôt? Cyril est ému par tout ce qui l'entoure, la vieille dame qui le reçoit amicalement et même avec amour, répond comme il peut et lui dit, je ne sais pas, je n'ai pas pu revenir, j'avais trop honte. Tout d'un coup, il voit tout tourner et s'évanouit. La grand-mère se dit paniquée qu'elle n'aurait pas dû lui poser des questions, que le petit avait sûrement besoin d'être ménagé. Vite, elle le prend comme elle peut pour le déposer. Il est lourd pour elle dans un fauteuil. Elle lui donne des petites tapes sur le visage pour qu'il puisse reprendre connaissance, mais rien n'y fait, et panique un peu, et sonne un domestique. Un domestique arrive et lui dit, aidez-moi, apportez cet enfant dans sa chambre. Ensuite, vous allez chercher le médecin. C'est ce qu'ils font. Le médecin, qui est le médecin du quartier, est un homme grand, gros, cheveux gris, dans les 60 ans, habillé d'un costume gris. Il ausculte Cyril, dit à la grand-mère, « Ce n'est pas grave, madame. Il a besoin de se reposer et de bien s'alimenter. J'ai l'impression que cet enfant a dû prendre quelque chose, peut-être un calmant. Je ne sais. Allez, faites-le bien boire. » Et le médecin s'en va. Cyril se réveille. Il ne sait plus où il est et voit qu'il est dans une belle chambre. Bien entendu, il ne reconnaît pas cette chambre qui est la sienne. Il ne bouge pas, reste dans son lit. Il est trop bien, beaucoup trop bien. Au bout d'un moment, on a frappé à la porte. Et on rentre. C'est la bonne, une femme dans les 50 ans, toute ronde, l'air gentille. Elle va vers lui avec le sourire et lui dit, « Oh, monsieur, vous êtes réveillé, c'est très bien. Monsieur, je vais pouvoir vous aider à vous laver. Mais vous êtes tout tremblant. » Alors, Cyril se laisse dévêtir. Une fois qu'il est nu, il est mené à la salle de bain. Il est mis dans la baignoire. La bolle le frotte dans la baignoire. Cela ne gêne pas du tout d'être nettoyé nu par cette femme parce qu'il n'a pas encore tout à fait conscience. Puis, une fois qu'elle l'est lavé, enroulé dans un peignoir, elle le ramène à la chambre. Le fait allonger, ou plutôt asseoir dans son lit, puis elle lui apporte à manger, ou plutôt à boire, un bouillon. Un bouillon bien chaud. Cyril a des difficultés à boire, puis petit à petit, il ressent que ça lui fait du bien à son corps. Fois qu'il ait fini son bouillon, la bonne le laisse pour qu'il puisse se reposer. Et la grand-mère vient le voir. Elle est toute heureuse. Elle lui demande : tu vas mieux ? Il lui dit : merci. Je vais très bien maintenant. Elle lui dit : je suis très heureuse. Si tu savais que tu m'as fait énormément de peine. Puis je me suis fait beaucoup de soucis. Comme tu m'as manqué. Je croyais que tu étais mort et que tu avais peut-être pris cette affreuse maladie. Je pensais à toi constamment. Et toi, mon chéri ? Il lui dit gêné : moi aussi. Elle lui dit : tu aurais dû rentrer plus tôt. Tu sais, je t'aurais reçu comme maintenant. Tu n'avais pas à avoir peur. Et puis, tu sais que je t'aime beaucoup. Et toi, est-ce que tu m'aimes ? Cyril, que nous allons appeler maintenant de son vrai nom, qui ne sait pas qui s'appelle réellement Adrien, moi aussi. Je t'aime. Il est très heureux et lui saute au cou. C'est la fatigue, l'émotion qu'il fait pleurer et aussi la honte. Parce que lui se sent gêné et se dit qu'il est ici, c'est pour détrousser ces gens qui le reçoivent aussi bien. Et cette vieille dame qui semble si gentille et tout. On le force à rester au lit. Il est nourri. On lui donne des fortifiants et le fait boire. Il se rétablit petit à petit. Jeanne vient le voir plusieurs fois par jour et pour le distraire lui dit des histoires ou lui raconte des choses sur ce qu'il faisait lorsqu'il était petit et toutes les bêtises qu'il a faites. Lorsque David vient voir Jeanne, et pour une fois, ce n'était pas pour lui demander de l'argent, mais simplement pour s'informer si tout va bien, elle le reçoit au salon toute heureuse. Elle lui raconte le retour d'Adrien. Lui fait celui qui est surpris. Il lui dit : j'aimerais bien voir ce jeune aventurier. Toute heureuse, elle va montrer Cyril, c'est-à-dire Adrien, qui est au lit. Lorsqu'il voit David, il est tout rouge et a peur. David lui dit : c'est toi le petit aventurier qui a donné beaucoup de soucis à ta grand-mère. C'est pas gentil, tu sais. Elle croyait même que tu étais mort. Bien, reste comme ça, sois sage et reste près d'elle. Elle t'aime beaucoup, charmant jeune homme. » Et dit à la grand-mère, « Il vous ressemble vraiment. On voit que c'est votre petit-fils. » La grand-mère est toute heureuse. Adrien se sent extrêmement gêné. Jean dit à David, « Je crois qu'il faudrait se laisser maintenant. » Et ils sortent de la chambre. David dit à Jeanne, « Je suis heureux pour toi que tu aies retrouvé Adrien. Tu seras plus seul. » Elle est toute heureuse qu'il ait dit ça. Elle est même surprise qu'il soit gentil avec elle et se dit que peut-être qu'il a changé. Pour la première fois, il est venu la voir sans lui demander quoi que ce soit. Elle a retrouvé son Adrien et David qui est gentil avec elle. Elle est heureuse. Maintenant, Adrien peut se lever, ne connaît pas la maison et lorsqu'on lui demande d'aller chercher quelque chose, il ne sait pas. Et puis, il n'a pas l'habitude qu'on l'appelle Adrien. Alors, lorsqu'on l'appelle, Adrien ne répond pas. Jean se dit que peut-être il n'est pas tout à fait aguerri. Mais le trouve changé. Il est moins violent, plus sage, plus gentil avec elle, le regard moins fixe et ne compte pas constamment. Elle se dit qu'il a dû mûrir. Elle est heureuse. Adrien, lui, est fatigué de jouer ce rôle toute la journée et toujours être sur ses gardes. Il a hâte la journée d'être dans son lit. Parce que la journée, il faut qu'il tienne compagnie à la grand-mère et la grand-mère ne cesse de parler de comment il était. Elle lui demande d'aller chercher certaines choses et lui pose des questions sur des choses qu'il devrait savoir sur ce qu'il faisait avant. Il faut toujours qu'il soit sur ses gardes, qu'il se rappelle qui il est. Adrien, il ne faut pas qu'il fasse surpris lorsqu'on lui dit certaines choses. C'est dur pour lui de jouer un rôle. C'est même plus dur pour lui que pour un comédien. Parce qu'un comédien, une fois qu'il est sorti de scène, du plateau de cinéma, il redevient lui-même, tandis que lui, 24 heures sur 24, est obligé de jouer son rôle. Jouer son rôle dans la vie, la vraie vie, et s'il le rate, il risque d'avoir de gros ennuis. Les domestiques sont heureux qu'ils ne fassent plus de caprices et ne cassent plus rien. La grand-mère et domestique voient qu'il ne sait pas se servir de son couvert et ne reconnaît pas ses affaires, vêtements, etc. Ne sait pas non plus se servir de la robinetterie de la salle de bain. Cela paraît étrange, mais on se dit qu'il a dû vivre durant toutes ces années au milieu de personnes qui vivaient dans la rue. Une fois qu'il est bien rétabli, Jeanne, lorsqu'elle est assise avec lui sur une chaise de jardin, sur la terrasse, lui pose des questions. Peux-tu me dire, mon chéri, ce que tu as fait durant tout ce temps? Il lui dit, j'ai traîné dans les rues, comme ça. Puis j'ai rencontré des jeunes, un peu plus vieux que moi. Je suis mis avec eux et nous avons squatté dans un immeuble délabré. Il fallait faire très attention à cause de la police. Pour manger, je faisais la manche pour avoir un peu d'argent. Le temps passait très vite comme ça, et voilà. Puis un jour, j'ai été pris de remords et j'ai envie de te revoir. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai sonné chez toi. Voilà ma vie durant tout ce temps. Je n'ai pas eu une vie très agréable. C'était dur. Je ne mangeais pas tous les jours. Ils vivaient dans des endroits vraiment terribles. Et les jeunes qui étaient avec moi, je devais m'en méfier parce qu'ils étaient violents à cause de l'alcool et la drogue. Mais je jure que je n'ai jamais pris de drogue ou d'alcool. Ça, je te le jure. Elle lui dit. Tu aurais dû revenir avant. Enfin maintenant, tout ça c'est fini. Nous allons rattraper toutes ces années perdues. On interdit à Adrien de quitter la propriété. Ça ne le gêne pas. Il se sent bien. Et, si l'on veut. Mais enfin, il se dit que s'il sortait de la propriété, ce serait pire. Et puis David risquerait de le rechercher pour lui donner une correction. Le chauffeur, lorsqu'il le voit dans le parc, lui parle des voitures. Et il lui dit qu'avant, il faisait tout pour pouvoir rouler. Il prenait des voitures qui étaient en stationnement et il roulait durant des heures comme ça, devant lui, droit devant lui. Que c'était très excitant et qu'il aimait ça. Adrien lui répond évasivement qu'il ne se souvient plus qu'il aime les voitures. Adrien reçut l'ordre de David de bien faire attention à ce que disent les gens de la maison, mais il n'entend que des banalités. Jeanne, sa grand-mère, lui couvre de cadeaux. Elle lui offre des livres, des vêtements, des CD, des DVD, toutes sortes d'appareils portables et un nouvel ordinateur. Il se met à aimer cette vieille femme et à pitié d'elle, parce qu'il se dit qu'elle ne sait pas qu'on lui veut du mal et que ces personnes qui lui veulent du mal, ce sont celles qu'elle aime. Il se met la journée sur la terrasse pour lire. Et surprise, lui qui ne lisait jamais. David vient moins souvent la voir et Jeanne ne s'en rend pas compte parce qu'elle a Adrien. Oui, il vient moins souvent la voir parce qu'il a des yeux et des oreilles dans la place et puis il n'a plus à demander d'argent puisqu'il aura bientôt tout. Oui, il aura bientôt tout parce qu'Adrien héritera. Et lorsqu'Adrien héritera, cela voudra dire que David va hériter. Bien entendu, en allant la voir de temps en temps, il lui demande des petites sommes pour ne pas lui paraître étrange ce changement de comportement. Marie Berthet, la secrétaire, voit que les choses s'arrangent, mais elle reste vigilante. Elle trouve Adrien étrange. Et se dit qu'il est, s'il est revenu, c'est pour quelque chose. Elle va prévenir chez lui Albert du retour de l'enfant prodigue. Il est heureux et se dit, c'est dommage qu'il n'a pas disparu définitivement. Et dire que l'on a la peste. Et je suis content qu'il soit revenu. Peut-être, est-ce que ça va faire éloigner David, puisque Jeanne aura son petit-fils. La police, après le retour de l'enfant prodigue, surveille, car ça leur paraît un peu étrange. David accourt voir sa mère par curiosité, qu'il reçoit au salon. Elle lui fait part du retour d'Adrien. Il fait le surpris. Il veut le voir. Ils vont le voir dans sa chambre. Il est en train de lire bien sagement. Il est surpris de voir cet homme avec Jeanne. Il ne le reconnaît pas. Il demande, « Qui est ce monsieur ?» La grand-mère lui dit, « Je ne reconnais pas ton oncle Albert ?» Adrien ne sait quoi répondre. Albert pose des questions sur ce qu'il fait. Adrien répond d'une façon évasive. Jean lui dit « Il est encore très faible. » Albert lui dit « Il faut le réprimander après ce qu'il a fait. On ne revient pas d'une fugue comme ça. » Puis, ils ont tous les deux laissé Adrien dans sa chambre, qui a eu très peur d'être dévoilé. Adrien a très peur, parce qu'il a peur d'être pris comme un imposteur. Il aimerait c'est pouvoir fuir, mais il a peur d'être repris par David, qui cette fois le ferait mener au four. Albert, par l'intermédiaire du chauffeur, veut faire partir Adrien en laissant ouvert le portail et en mettant une voiture garée près de la propriété. Mais ça ne marche pas. Adrien ne cherche pas à sortir de la propriété. Jean le présente à tous ses amis au cours d'un thé. Adrien a très peur. Tout le trouve gentil. Mais l'on voit qu'il ne sait pas prendre le thé comme il faut. Adrien a de moins en moins peur. Et puis l'on voit qu'on parle de lui sans lui poser de questions. Jean fait des projets d'avenir et lui dit « Tu prendras la tête de la société plus tard. » Lui ne sait quoi répondre. Elle fait venir un professeur de ses amis pour qu'il voie le niveau scolaire du petit. Le professeur est un homme de 30 ans, grand, mince, cheveux rouquins, l'air très sympathique, il porte un costume gris d'été. Adrien est très gêné et a peur. Professeur lui fait faire un petit examen dans le bureau de Jean, lui donne un questionnaire qu'il doit répondre par écrit. Questionnaire sur toutes les matières. Le professeur est surpris qu'il sache autant de choses, même un peu de latin, et qu'il est fort en littérature française et histoire, etc. Il le dit à la grand-mère qui est surprise. Elle lui dit, lui qui était en retard, il ne savait presque rien. Maintenant, il a des notions de latin. Mais qu'a-t-il fait durant sa fugue? Elle voit Adrien dans sa chambre et lui demande « Qui t'a appris tout ça? Avant ta fugue, tu ne savais rien. » Adrien lui dit gêné « J'ai rencontré un homme, un professeur à la retraite et qui était prêtre. Il m'a donné des leçons. C'est la vérité étant donné qu'il a réellement rencontré un prêtre et que ce prêtre lui a permis de poursuivre ses études. » Elle est heureuse, se dit que ça va lui servir à quelque chose. Son savoir et son mental s'est amélioré. Et puis, il ne fait plus de crise comme il faisait et se dit qu'il va falloir le mettre dans une école. Elle le lui dit. Il panique et lui dit « Mais je suis beaucoup trop vieux pour aller à l'école. » Elle lui répond « Non, et puis il faudra, c'est que tu aies un diplôme. Parce que le savoir sans diplôme, ça ne peut pas servir. » Alors la grand-mère décide de le mettre dans une école privée à Neuilly-sur-Seine. L'école, c'est plusieurs bâtiments de 3 étages, genre 19e siècle, très beau. La cour a un jardin et une statue de Saint-Michel au milieu du jardin. Jean le mène au directeur de l'établissement pour le présenter. Le directeur le reçoit dans son bureau où il y a de gros meubles en bois, c'est clair, il y a une immense bibliothèque qui va jusqu'au plafond. Le directeur est grand, mince, blond, dans les 50 ans, costume gris. La grand-mère présente Adrien. Le directeur lui dit, je vais être obligé c'est de lui faire passer un petit examen pour savoir à quel niveau il est exactement. Alors, l'on mène Adrien dans une classe vide où on lui donne un questionnaire à répondre. Adrien a une demi-heure pour pouvoir répondre à tout ce qu'on lui demande. Il y arrive. Une fois que c'est fini, le directeur examine ses réponses et le lendemain matin, il leur dit qu'il le prend et le met en deuxième année. Adrien est mené aux élèves du deuxième année, se sent très gêné parce qu'il est plus vieux qu'eux. Il arrive facilement à suivre ses cours parce qu'il a déjà étudié tout ça au séminaire et même avant. Il prend le car pour aller à l'école, à 12h mange au restaurant scolaire, parle peu et même pas du tout aux élèves. On lui demande pourquoi, même très souvent, pourquoi il redouble. Il répond, j'ai été malade, très malade. Les professeurs sont satisfaits de lui. À cause de la chaleur, les cours ne se font que le matin. Il y a très peu d'élèves au cours, parce qu'au cours des mois, on annonce de nombreux décès. Une nouvelle vie commence pour Adrien. Le matin, l'école, l'après-midi, il étudie dans sa chambre, jambes et heureux. Lorsqu'Albert vient la voir, elle lui dit « Le petit rattrape sa scolarité. Il pourra sûrement me succéder. Il est furieux. » Lorsque David va voir Jeanne, réussit à s'isoler avec Adrien pour lui poser des questions. Adrien lui dit « Je n'ai rien à dire. On parle ici que de banalité. Et moi, je suis forcé d'être enfermé dans ma chambre pour étudier. » David lui dit, « Attention, si tu refuses de coopérer, tu sais ce qui t'attend. » Adrien lui répond furieux, « Je n'ai rien à dire. » Et c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Une jeune fille de sa classe dans les 16 ans, elle est blonde, cheveux longs, très belle, avec des yeux bleus et lèvres pulpeuses. D'habitude, elle ne parle jamais à personne. Mais un jour, en sortant des cours, elle dit à Adrien, « J'organise une soirée chez moi. Si tu veux, je t'invite. » Adrien est surpris, mais trouve la jeune fille charmante. Alors il lui dit, « Je ne sais pas si je pourrais venir. » Elle lui dit, « Tu peux bien venir, ça me ferait très plaisir, tu sais. Tu es la seule personne que j'invite pour cette soirée qui me plaise vraiment. Tu ne peux pas me refuser. » Il lui répond, « Je vais voir, je vais réfléchir, je donnerai ma réponse demain matin. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. C'est très gentil. » Elle est heureuse. Il donne un baiser sur la joue et se sauve en courant. Lui est surpris. Il en parle à Jeanne. Elle lui dit, « Vas-y, ça te permettra de t'amuser un peu. Mais il faut que tu sois sage et ne rentre pas trop tard. Attention à ne pas trop boire, ni à prendre certaines choses. Tu comprends ce que je veux dire ?» Il lui dit, « Oui, grand-mère, je te remercie. Je te promets que je serai sage. » C'est le chauffeur qui le mène en ville, avenue de Courcelles. « l'a arrêté devant un immeuble cossu genre 19e siècle de 4 étages. Avant qu'Adrien quitte la voiture, il lui dit « Je viendrai vous chercher à minuit. Mais si vous avez décidé de partir, il lui montre une voiture grise qui est près de l'immeuble. » Adrien ne dit rien. La soirée se passe dans un appartement du deuxième étage. Appartement très cossu avec des meubles 19e. On a enlevé des meubles pour laisser de la place pour que l'on puisse danser. Il y a du monde, de la musique, ça parle, ça rit, ça danse. Adrien, en entrant dans l'allée, entend le bruit de la soirée. Il sonne à la porte de l'appartement inquiet. C'est la jeune fille qui le reçoit. Elle est habillée d'une robe rouge très courte avec un grand décolleté. Elle lui dit « Salut, entre. Je suis très heureuse que tu sois venue. » Elle lui donne un baiser sur la joue. Le prend par le bras et ferme la porte de son appartement. La jeune fille le présente à quelques jeunes et lui donne une coupe de champagne. De nombreux garçons cherchent à lui parler parce qu'il fait plus vieux qu'eux. Puis la jeune fille le mène dans un coin moins bruyant à la cuisine. Elle lui dit « Je t'aime et c'est pour ça que je t'ai invité. » Il est surpris. Elle lui dit « Tout à l'heure, je vais partir. Tu vas partir avec les autres et tu reviendras en cachette. » Elle lui donne un baiser sur la joue, puis le laisse. Lui passe sa soirée dans un coin à regarder les autres. Il s'ennuie un peu. Il se demande s'il va retrouver voir la fille. Le temps passe. Il a dansé un peu, discuté avec certains jeunes, du climat, de la politique, etc. Puis les jeunes commencent à s'en aller. Lui s'en va avec eux. Une fois dehors, il marche pendant un moment et retourne chez la jeune fille.
C'était qu'elle jouait à la porte. Bien, mes parents ne rentrent que demain après-midi. Et tout tremblant, il la suit. Elle le mène à sa chambre. Il voit que c'est une chambre de petite fille. Et cela l'émeut. D'un geste rapide, elle quitte sa robe. Elle est nue dessous et la robe est tombée à terre. Lui est très ému. Elle se met contre lui et donne des baisers de partout. Sur son visage. Il a très chaud et commence à bander. Elle lui dit « Déshabille-toi !» Elle se dégage. Et il se déshabille en vitesse. Fiévreux. Une fois nu, il ne sait que faire devant elle. Elle le prend par le bras et le mène vers le lit. Là, elle l'allonge sur le dos. Elle le couche sur elle. Alors lui est pris de vertige, ne sachant comment faire, c'est elle qui le guide. Trop ému, la chose se passe trop rapidement, il n'a pas eu vraiment de plaisir, elle non plus. Puis, ils se sont reposés en se caressant. Puis, recommencer. Et là, cette fois, ils ont eu tous les deux du plaisir. Puis, ils se sont endormis à lancer. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Rebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.